Bonjour à tous et merci de venir assister à cette conférence autour de l'imaginaire et du sexe. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est relativement tabou. Alors actuellement, on est vraiment dans l'imaginaire pour beaucoup. Alors que finalement, c'est exactement comme dans la vie. Donc l'idée, c'est un peu de voir avec un certain nombre d'auteurs que vous voyez là, comment est-ce qu'on peut parler du sexe dans les romans, comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'il y a des tabous, est-ce qu'il y a des choses comme ça. Donc un certain nombre d'auteurs qui sont là sont dans l'anthologie du mention sexe, qui est sorti il y a peu de temps aux éditions Rivière Blanche. Donc je vais les présenter un par un, je vais commencer par les femmes. Donc Élodie Mest, qui a quelques nouvelles à son actif et qui est justement dans l'anthologie de Mention 7. Bettina Mardet, qui est auteure aux éditions du Chat Noir. Nabil Wally, qui fait quelque chose, mais on n'a toujours pas compris quoi.
Non, je déconne.
Non, je déconne. Auteur d'une trilogie de fantasy aux éditions de Nemos. Thomas Mandroux, auteur d'Urban Fantasy, principalement. Fabien Clavel, qui a écrit plein de choses, notamment avec des papiers et des zombies.
Et du soupeur, et tout ça.
Et Jacques, qui aime les tout petits textes. Peut-être qu'ils vont construire quelque chose, on ne sait pas. Donc, bah, on va commencer par Fabien, parce qu'il a été le premier à parler, on va dire. Lorsque tu vois une scène de sexe arriver dans le fil de ton roman, comment est-ce que tu la décris? Comment est-ce que tu arrives à l'appréhender, à la mettre en place pour que ça passe auprès du public?
On n'a aucune idée. Hein.
Merci.
Ça, c'est la participation constructive.
Non, mais voilà, au moins, en général, je ne prévois pas à l'avance parce que comme ça se fonde dans le reste. Et puis, j'en ai absolument aucune idée. Il y a juste une scène de sexe, c'était un truc absolument ignoble dans mon histoire de papier et de zombie. Je laisse l'imagination pouvoir là-dessus, je pose la question maintenant. Mais qui était effectivement horrible, et là c'était prévu parce que c'était un point nodal, on va dire, du roman. Mais la plupart du temps, non, c'est s'il y a besoin et tout. Puis ça dépend des périodes. J'ai eu des périodes où il y avait du sexe partout dans mes bouquins, j'ai eu des périodes beaucoup plus austères, où on ne couchait pas. C'est des trucs horribles, mais pas sexuels. Donc ça dépend complètement de l'humeur, de l'envie.
Et alors, comment est-ce que tu t'y es pris pour l'auteur de ta nouvelle dans Dimension Sexe?
Ah, alors ça, c'était une idée que je voulais poursuivre depuis longtemps, c'est-à-dire utiliser en général le sexe à présenter comme quelque chose d'émancipant, le sexe libre en tout cas. Et là, c'était de voir comment une religion pouvait utiliser la sexualité comme moyen d'oppression et de contrôle. Voilà, donc c'est vraiment parti de ce truc-là, et après d'imaginer tout ce qu'on pouvait faire pour que ça devienne vraiment oppressif.
Qui est-ce qui veut parler ensuite? Vous, parce qu'il n'est pas surtout.
Le problème, c'est que si on me donne le micro, je n'ai pas de la suite. Vas-y,
c'est ma question.
En fait, ça dépend beaucoup du texte que je vais écrire. Bon, il y a un certain nombre de textes du type micro-ouvert que je peux écrire qui me viennent spontanément. Forcément, si c'est une scène de sexe et que ça tient une ligne, ou si ça parle de sexe et que ça tient une ligne, bah, c'est le texte, clairement. Ou des fois, ça peut être assez amusant, c'est de partir sur. Une phrase ou deux ou trois phrases qui n'ont rien à voir avec le sexe et donner forcément un sens grave sur le dernier ou les derniers mots. Sur des textes plus longs, j'aime dire que j'ai attendu peut-être 10 ou 15 ans d'écriture avant de vraiment mettre du sexe dans les textes, parce que c'est la discussion que j'avais tout à l'heure avec Fabien, je crois, à savoir qu'il y a un certain nombre d'auteurs du genre de la science-fiction et fantastique, en particulier les auteurs fantastiques et d'horreur, qui ont un traitement assez particulier sur le sexe et qui, pour moi, revient un peu à du vissage de ligne. Quoi. Quand on prend Stephen King, il y a pas mal de ses bouquins, où finalement on se trouve avec 20, 30 pages ou plus de scènes de cul et on se dit, what the fuck, quoi, enfin, à quoi ça sert? Ou Graham Masterton, oui. Graham Masterton, pareil, même constat. Ray Parker, c'est un cas un peu particulier parce que c'est souvent homo-érotique. Et le sexe, ça quand même souvent chez les marqueurs, souvent c'est malsain, et souvent aussi ça a un impact scénaristique ou ça a un intérêt scénaristique. Donc moi j'avais fait un peu ce constat en tout cas sur les maîtres classiques du fantastique actuel. Pourquoi le sexe? Et je ne voyais pas forcément l'intérêt de mettre du sexe dans les textes, donc c'est ça que j'ai pour l'instant. Et en fait, après, au fur et à mesure des années d'écriture, je me suis intéressé au sexe, j'en ai parlé avec Copine, je me suis intéressé au sexe, et je me suis dit, effectivement, ça peut être au niveau scénaristique, quelque chose d'intéressant à utiliser, à exploiter, à traiter. Donc. Mais j'en suis arrivé à des textes où je parle de sexe, ou des textes qui reposent entièrement sur sexe. À savoir, j'ai bossé sur un projet qui s'appelle qui est en l'air, hein, je ne sais pas si ça s'appelle les deniers de Judas, et chaque denier, finalement, cette forme de denier, chaque denier était relié à un vice humain. Il y avait un des deniers, c'était la culture. Et forcément, j'ai écrit un texte sur la culture, et il m'a essayé d'imaginer toutes les perversions qui pouvaient exister en rapport avec le sexe. Ce qui est finalement intéressant parce que je me retrouve dans une piste, dans des pistes, en fait, des têtes qui ne sont pas forcément dominées. Donc, pour conclure, écoutez le micro après à quelqu'un d'autre. Pareil pour Jason Hérobure, qui est une série que j'ai écrite, qui est un roman feuilleton en fait, en différents épisodes. L'idée de départ, quand je suis parti pour écrire ce roman feuilleton, c'était de mettre du sexe dedans, parce que, enfin des relations en tout cas sexuelles dedans, parce que ça me semblait intéressant scénaristiquement à traiter, et que je voulais avancer là-dessus, quoi, et c'était aussi un défi. Quoi. Donc voilà.
Bon, je vais choisir le suivant, donc Nadir. Parce que finalement, toi, tu es, au regard de pas mal d'auteurs en relation imaginaire, assez jeune, puisque tu as deux romans à ton actif. Est-ce que justement, cette relation au sein de sexe n'est pas quelque chose d'un petit peu terrifiant au moment où on écrit sa première saga? Comment est-ce que tu l'as appréhendé?
Ouais, non, t'as raison, c'est, j'avais peur de deux choses, j'avais peur des scènes de combat et des scènes de sexe. Et je pense que les deux sont les types de scènes les plus difficiles auxquelles j'ai pu être confronté. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que Fabien et Jacques ont tous les deux parlé ou abordé la question de la gratuité des scènes de sexe. Qu'est-ce qu'une scène de sexe gratuite? Et c'est ça qui est compliqué, c'est que Fabien, tu disais, il faut que ça se fonde dans le décor. Pas dans la mesure. Enfin, il faut que ça se fonde dans le décor, dans la mesure où il ne faut pas qu'on sente que l'auteur met du sexe pour mettre du sexe. Et c'est là où je reviens sur la question de la gratuité. Une scène de sexe, je voulais pas les aborder en me disant que j'allais faire parce qu'il faut en mettre. Il faut que ce soit prétextuel. Alors on va me dire que ce mot n'existe pas et je reviens dessus. Voilà. Il faut que. Enfin, il y a deux types de scènes de sexe comme il y a deux types de scènes de tout en fait. Il y a les scènes qui renvoient à autre chose, qui sont prétextuelles, et les scènes qui renvoient à rien d'autre qu'elle-même. Et une scène de sexe qui ne renvoie à rien d'autre qu'elle-même, je ne vois pas trop la différence avec de l'érotisme ou de la pornographie en fait. À partir du moment où une scène renvoie à quelque chose, on entre dans la métaphore, on entre dans l'interprétation, on entre dans la sémantique. Ce qui est compliqué en revanche, c'est le langage utilisé. Ça, c'est ce qui me faisait le plus peur. Parce que je me suis confronté assez vite à la réalité, c'est que peut-être à cause d'une sorte de facétie d'histoire de la langue, l'argot s'est enrichi sur le dos du sexe. La pudeur s'est enrichie sur le dos du sexe et la médecine s'est enrichie sur le dos du sexe. En gros, pour écrire une scène de sexe, on a le choix entre trois solutions. L'argot, la technique. Bon voilà, le fabuleux pénètre, le vagin, ça ne vend pas du rêve, non, ça ne vend pas du rêve du tout. Ou la métaphore. Et dans ce cas-là, c'est ultra suggestif. Et c'était ça en fait que je trouvais ultra compliqué, c'est que on a créé une sorte de barrière politique du langage vis-à-vis du sexe qui nous empêche d'en parler à peu près aussi normalement que tout n'importe quoi. Et c'est vraiment ça qui m'a terrifié.
Bettina ? Globalement, ouais, même question, mais du coup j'en profite parce que dès qu'on parle de sexe, on pense que c'est les hommes qui en parlent essentiellement, soyons francs. Donc comment est-ce qu'une femme interagit avec ça, sachant que, vu que c'est une série plutôt à destination féminine, c'est un public féminin qui va dire. Est-ce que ça change la manière de dire les choses, la manière de les créer?
Déjà, étant donné que je suis une fille, effectivement, j'aborde peut-être pas le sexe de la même manière que les hommes, mais c'est vrai que, en parlant de vocabulaire, moi, dans ce que j'écris, c'est plutôt, j'évite des mots crus, c'est toujours assez. C'est dit, je raconte, je dis, mais il y a certains mots que je n'emploie pas. Par exemple, je ne vais pas employer phallus, je ne vais pas employer d'autres mots qui sont vraiment. En fait, je raconte, mais je, par exemple, je vais dire sa chair, ou je vais trouver d'autres mots pour éviter de basculer, on va dire, à les vulgaires. C'est vrai que tu as tout à fait raison. C'est pas évident d'arriver à doser. C'est vrai que les scènes de combat et notamment de sexe, c'est vrai que ce sont les plus ardues à aborder. Par contre, c'est vrai que personnellement, quand je lis un livre, j'aime bien qu'il y ait des scènes quand même un peu érotiques. Pas des bouquins complètement érotiques, quoique j'en ai lu aussi, mais dans ce que j'écris, ça ressort. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelques scènes et il faut que ça serve d'intrigue, bien évidemment.
Thomas. Alors toi, si je me trompe pas, ça va être un petit peu spécifique, parce qu'en plus tu tombes dans l'érotisme un peu plus gay.
C'est pas un peu plus, c'est carrément gay. À fond.
Ouais. Ah, c'est
c'est qu'à le dire.
Non, mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui, finalement, dans notre société, parle un petit peu de la vie.
Ah, complètement.
Et comment est-ce que tu arrives à faire en sorte que ça passe pas
alors, alors, et toutes les scènes ont été déjà testées dans le bouquin de Jopi. Alors, blague à part, c'est que, bon, justement, lorsque c'était un défi au départ. Mon éditeur m'a dit, est-ce que tu es capable de m'écrire une romance gay ? Parce que t'es gay. Oui, hein, c'est pas parce qu'automatiquement on est noir qu'on doit écrire un bouquin sur les noirs. Voilà. J'ai fait, ok, on y va. On y va, voilà. Et donc j'ai vu beaucoup de bouquins là-dessus, et effectivement, on tombe dans le gras bleu, on tombe dans les termes argotiques, et au bout d'un moment, ça m'a répugné, j'ai fait, c'est dégueulasse, ça ne me plaît pas. Donc j'ai voulu effectivement écrire avec des termes imagé, sans rentrer dans le dictionnaire du Larousse médical non plus, faut pas déconner. Et c'est là où je me suis rendu compte en fait que tous les bouquins que j'ai lus là-dessus, c'était des femmes qui l'avaient écrit. Et ça veut dire que justement ce que disait bien, c'est qu'on a des femmes ont quelque chose de fantasmé sur entre deux hommes qui font un groupe. Alors que ça se passe pas du tout comme ça. Et donc je me suis dit, c'est pas possible. C'est non, non, là, notamment, c'est tu peux pas, c'est pas possible. Et donc, oui, d'un côté, avec mon expérience, mais avec mon expérience, j'ai pu écrire des scènes qui correspondaient un petit peu mieux à ce qu'un public de gay pouvait attendre. Et en rentrant aussi dans l'imaginaire féminin, pour dire voilà, c'est ce que j'ai appelé entre deux hommes, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Non, du tout, il y a des trucs dans le bouquin, dans le film que j'ai écrit, que j'ai jamais testé. Je n'ai peut-être pas l'oreille pour le faire. Donc voilà, donc non, il y a des choses que j'imagine, il y a des choses où YouPorn aide énormément, parce que c'est un truc génial ce système. Ah, mais enfin, pour les gays, c'est YouPorn, donc ça aide. Et ce qui fait que il y a des trucs, oui, où on décrit ce qu'on est en train de voir dans le bouquin, et ça fait mouche. Mouche. Voilà.
Élodie. Donc toi, tu as quelques nouvelles à ton actif pour l'instant. Et comment est-ce que tu as envisagé le fait d'écrire une histoire érotique ou pornographique ?
Et en fait, j'ai retrouvé le problème en tapant plutôt dans la sensualité. Pour la simple et bonne raison que ma maman lit tout ce que j'écris. Et du coup.
Ah bah c'est bête. Et oui. On a tous les mêmes pas pour le problème.
Et du coup, bon, ben. J'ai contourné le truc, mais. Dans mes expériences précédentes en traduction, je me suis retrouvée face à des scènes à traduire qui étaient assez affreuses. Jacques, je suppose que tu as déjà vu. Tomber là-dessus aussi.
J'ai traduit un roman qui est la préquelle de Terminator 4. Je me suis bouffé du vocabulaire d'avion et de militaire, de la SF militaire, finalement, à dégueuler. Mais ouais, je pense que j'ai traduit un peu ici dans Monstre, j'ai traduit une nouvelle avec un loup-garou dégueulasse, une bête sexuelle, et simplement, c'était super cool. Mais bon, après,
ça dépend, parce que des fois, enfin, c'est pas fait proprement. Moi, enfin, je sais que j'ai traduit quelques romans jeunes adultes, Et c'est tout.
Est-ce que tu n'as pas non plus une distance en tant que traducteur?
Voilà, c'est surtout que quand en anglais ils emploient vraiment le mot zizi, pour des gens qui ont 17 ans, c'est un peu compliqué de retraduire.
Si tu adaptes au public français aussi, tu vas pas mettre zizi, enfin les
bah non, oui, mais t'adaptes.
Tu te marques, tu veux le travail.
Et oui, mais le problème c'est que quand t'as que du vocabulaire enfantin tout le long de la scène, mais vraiment tu te dis au secours, quoi, j'ai écrit ça, c'est qui dit.
Mais
moi personnellement, je pense pas que je pourrais écrire de scènes vraiment détaillées, tout simplement parce que je ne savais pas comment l'aborder en fait. On tombe dans le technique, on tombe dans le malsain, on tombe. Enfin, moi je parle beaucoup en anglais, je vois ben, tout ce qui est Stephen King, Ben Fiddler et tout ça, c'est juste dégueulasse. Et des fois c'est juste dégueulasse. Enfin, on lit, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que. Enfin, ah, je vais aller partir en tant que couvent. Je ne peux plus jamais penser à du sexe de toute ma vie, c'est juste crainte. Et je ne suis pas sûre que j'arriverai à franchir la limite, enfin, franchir la barrière entre le sensuel et l'érotique dans le crado.
Alors, moi, je me souviens, il y a quelques temps, aux Imaginales, j'ai écouté une conférence où quelqu'un, comme Nabil l'a dit tout à l'heure, où les deux choses sont difficiles, finalement, dans l'écrasement des sexes, on va appeler les scènes de sexe, et où il y avait un auteur qui disait que quand il écrivait une scène de combat, il essayait de la réaliser. Non, mais est-ce que l'expérience personnelle influe, finalement, dans l'écriture de scènes de sexe? Ou est-ce qu'on essaie justement de s'en distancier pour ne pas faire d'amalgame?
Il y a forcément du fantasme.
Non, mais je parle pas forcément du fantasme. Je parle de vécu plus que de fantasme.
Le fantasme,
je pense que, comme c'est dit, bon, il y a trois grands champs, on va dire, qui peuvent être explorés, à savoir l'arco, le médical, le technique et métaphorique, par le poétique. Et il y a aussi deux façons d'aborder le sexe, je pense, finalement. Qui sont de façon sérieuse ou de façon rigolote. Moi, j'ai choisi dans Jazz dans les gros murs que ça soit marrant. Et Jazz dans les gros murs, finalement, cette série, donc il y a un personnage qui s'appelle Jason comme Jacques, et l'autre qui s'appelle Robur comme Roland, mon frère. Donc, c'est très clairement, j'ai très clairement mis beaucoup de moi dans ces deux personnages. Et au niveau des scènes de sexe, je me suis fait plaisir parce que je me suis dit qu'on va partir sur un personnage qui est masochiste. Donc le personnage est masochiste et c'est assez marrant à raconter avec elle. Parce que je voulais, si c'est masochiste mais c'est sérieux, ça devient assez rapidement glauque. Et donc, pour répondre à ta question, non, je ne suis pas parti sur du vécu pour du masochisme, mais c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Quoi. C'est quelque chose, il y a une plan, il y a une forme de sens pour tout ce qui est des informations qu'on retient, de même que Google et Geofriend, enfin, c'est pareil. Donc, je ne sais pas si on met beaucoup de soi. On doit mettre de soi dans les scènes de sexe, je pense quand même. On doit mettre de soi, mais si on vise quelque chose qui est rigolo, bon, après. On met aussi du fantasme, on met aussi des trucs délirants qui ont peu de choses à voir avec ce qu'on a pu vivre.
Alors, je crois que
juste en même temps, c'est pas grave que ce soit fantasme, ça ne correspond pas au réel, parce que justement, c'est pas forcément fait pour correspondre au réel. Si on regarde dans les expériences au niveau de l'écriture de la sexualité, ça, par exemple, il y a des gens qui ont testé les positions qui sont décrites. Je parle même pas de l'horreur que ça peut représenter. Hein, si vous avez vu Les 120 jours de Sodome, c'est abominable. Même dans des trucs plus gentillets pour lui, la philosophie d'un boudoir, par exemple, les positions, ça marche pas. Quand il écrit, alors toi tu vas me mettre là, moi je vais être derrière, ça, toi tu vas être au-dessus, tu vas plus les cheveux de l'endroit et tout. Et c'est impossible d'adapter. C'est impossible. C'est quand même pour le coup, hein, j'attends les deux gens en face parce que c'est vraiment il faut 10 personnes, qui va venir des potes.
Non,
c'est ça. Ah, c'est un peu qui est prévu à l'avance, il n'est pas. Ce qui est prévu au dernier moment, il faut l'être. Et donc, c'est compliqué, mais je sais qu'il y a des gens qui disent et c'est absolument impossible. Et, mais en même temps, c'est pas grave. Ça n'enlève rien à l'expérience littéraire que ça peut être. Voilà.
En fait, celui qui reçoit pas mal dans cette classe, toi tu peux critiquer comme moi, mais vous les garçons, vous parlez beaucoup de livres,
non, je suis désolé, Fabien n'en a pas parlé. Ouais. Même si on peut dire, mais c'est pas grave.
Vous êtes tous dans le même panier. Mais moi, personnellement, moi, je ne viendrai jamais à l'idée d'aller sur le livre pour trouver de l'inspiration pour des soucis. Puis une chose, t'as sur là-bas, t'es là.
Ah non, on nous colle ici. Non, mais sérieusement, c'était beaucoup d'avant. Oui, mais c'est vraiment une intéressante.
J'ai bien l'impression qu'en fait, on aborde juste pas au départ les descriptions de scènes de sexe de la même façon entre filles et entre garçons, et que même si c'est un gros débat, mais c'est assez symptomatique. Hein, les deux mentions du porc, voilà.
J'ai grandi, hein.
T'es lâche. T'es lâche.
L'histoire du porc, c'était vraiment du point la poubelle. Et c'est vrai que ce que tu disais, le côté parfum qui appréhende la scène de sexe est complètement différent. Comme je disais, voilà, moi j'ai lu des bouquins de romances gays par les femmes qui sont totalement imaginées, comme tu disais, avec des positions complètement à droite à la place. On ne dit pas qu'on. Voilà, mais ça c'est pas possible, t'as la jambe qui est visible, le bras qui est de l'autre côté. Mais c'est vrai, tu comprends pas. Et après, peut-être qu'on va plus dans le détail, peut-être qu'on va plus dans le réel, dans le fait, peut-être. Et que les femmes ont besoin justement de fantasmer ces positions, de fantasmer, de rendre quelque chose de beaucoup plus poétique, ça c'est sûr et certain. Parce que 17, complètement difficile à faire, mais d'un autre côté, elles sont très belles et très difficiles. Alors après, je ne dis pas que c'est la merde, c'est pas que je ne connais plus. Mais voilà, au bout d'un moment, oui, pour revenir à ta question, le vécu, on met forcément de nous à l'intérieur. Il y a peut-être 5 à 10% de moins à l'intérieur. Après, pour le reste, c'est oui, du fantasme, de ce que j'invente, de ce que ce qui pourrait faire, etc. Mais,
il y a 10 minutes, tu disais qu'on a testé tout ce que tu avais écrit.
Non, j'ai déconné, je n'ai pas testé. C'est tout simplement que je ne m'appelle pas le réplique Hamilton. Voilà, je ne m'appelle pas le réplique Hamilton qui, elle, comme il y a un statec, le dit dans les outils à la réplique, c'est qu'elle les a tous testés. Tous, c'est-à-dire que quand elle se fait une partouze avec 10 à 10 mecs, elle a fait. Le bondage, elle a fait. Non mais faites très clair, après pour d'autres scènes, oui, il y a 5% de ce que l'on peut réaliser, et d'un autre côté, 95% c'est complètement du fantasme, c'est complètement de l'imaginaire. Ça c'est sûr.
Nabil, tout à l'heure, tu n'avais pas l'air tout à fait d'accord.
Oui.
Donc vas-y.
Ouais, non, c'est juste que, enfin, no offense, hein, je vais tous vous dire, moi aussi. Mais ça me crispe toujours d'entendre les hommes 1-1 et les femmes 1-1, ça me crispe follement. J'ai un mal fou à percevoir, désolé, hein, on peut dire que les hommes et les femmes n'ont pas la même vision du sexe. Ça me fait mal partout, je ne sais pas. Là aussi ça me fait mal.
Le partout il était limite.
Partout. Non mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à me crisper un peu, mais au-delà de ça, ce qui m'intéressait c'était de comprendre pourquoi il y avait forcément rien à prendre à la pornographie, par exemple. Tout à l'heure, tu avais l'air un peu choqué, outré, je sais rien, tu vois, sur le fait qu'on puisse utiliser YouPorn comme une source de. Non, dans ce cas, miracle pas, c'est moi qui assure la presse. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a dans la pornographie une forme de sexualité qui est plus axée sur la performance, mais qui n'a pas forcément moins de valeur que toute autre forme de sexualité, en fait. Je veux dire, il y a des sexualités qui sont tout à fait épanouies dans la performance, il y en a d'autres qui sont totalement épanouies dans l'expression sentimentale, corporelle, etc. Je pense que j'ai un problème avec le fait de hiérarchiser le sexe, l'érotisme, la pornographie, etc. c'est un truc qui me gêne, mais ouais, non, c'est juste que je voulais réagir par rapport à clivage homme-femme. Bah, moi, personnellement, je pense que si je devais écrire une scène de sexe à maintenant tout de suite, naturellement, je verserais plus vers le métaphorique. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que je sois 80% féminin là, dans un quand même. Je pense que c'est surtout une question d'une scène de combat d'ailleurs, que je teste. Effectivement, je teste une scène de combat. J'aurais plutôt tendance à essayer d'être dans le métaphorique parce que c'est ce qui me plaît et ça n'a rien à voir avec le fait que je sois un homme ou une femme.
Jacques.
Rapidement, pour rebondir sur ce qu'il a dit, je pense qu'effectivement, je parle plutôt du même point de vue, à savoir qu'il y a un groupe d'hommes, je pense, hein, c'est vraiment personnel, parce que je suis un homme, donc il n'y a pas, mais oui, le clivage, je pense, entre les hommes et les femmes, j'espère pas me tromper, c'est plus, enfin, pour moi, le sexe, c'est vraiment quelque chose de très personnel, finalement, donc c'est quelque chose qui est propre, on va dire, à l'individu ou à la petite couple, on ne va pas dire que les hommes écrivent comme ça, les femmes écrivent comme ça. Il y a des femmes très certainement qui écrivent des scènes qui sont super crues, ce que tu avais l'air de dire par rapport à l'homo-érotisme, ou des hommes qui peuvent écrire des scènes qui sont crues, ou au contraire complètement dans la poésie et puis dans la métaphore. Et de mon point de vue, hein, peut-être que je vois les choses, après je ne connais pas bien les littératures érotiques, mais je ne pense pas qu'il y ait un clivage net. Surtout dans notre société, finalement, on a un héritage judéo-chrétien. Qui fait qu'on va pouvoir peut-être poser des clivages, mais finalement on a aussi une culture qui est détachée, en tout cas en France, de ce clivage judéo-chrétien, de cette imprégnation judéo-chrétienne, qui fait qu'on a, de notre point de vue, on va dire laïque, voire athée, on va avoir un rapport différent à la sécurité. Enfin,
donc c'est bien justement que vous faites l'enchaînement, merci beaucoup Jacques. Est-ce que, lorsque vous écrivez une scène de sexe, est-ce qu'il y a des tabous? Ou pas. Fabien, t'as le micro.
Je ne pas que je le sache. Encore une fois, ça dépend complètement du livre qui est écrit, parce qu'en plus, j'écris pour des menaces. Donc, effectivement, je ne mettrai pas de nom si c'est une scène de sexe. Je ne mettrai pas de nom de vie non plus. Enfin, voilà, vous avez un petit livre. Ça dépend, c'est pas comme ça. Mais le ton est difficile à passer dans un livre, tu vois. Bic fura-t-il, la même chose que bic suffira-t-il, ou même bic suffira-t-elle, tu vois, et là tout de suite, il y a un début scénario. Non, les tabous, non. Tout doit être possible, justement, encore une fois, la scène absolument horrible, j'ai eu beaucoup de mal à écrire d'ailleurs, les scènes de sexualité, déviantes. C'était vraiment dur à écrire, mais comme c'était dégueulasse, c'est facile en fait de faire du sexe dégueulasse. C'est très simple. Il suffit de poutrer, de recourir au médical, parce que le médical, l'argot aussi, c'est quand même très facilement dévalorisant. C'est utilisé dans les insultes, donc c'est pas compliqué du tout. Alors, effectivement, le pornographique, j'ai pas l'impression que ce soit extrêmement compliqué non plus, parce que tu peux faire quelque chose de technique assez rapidement. Je pense quand même que l'érotisme est très difficile à atteindre. Ça demande vraiment doigter, si j'ose dire, pour obtenir un résultat valable. Et moi, je suis très admiratif des gens qui arrivent à faire ça. Et pour l'instant, de ce que j'ai lu, j'ai quand même plutôt remarqué, pour en revenir au débat tout à l'heure, que moi, c'était les textes écrits par des femmes que je trouvais les plus efficaces. Les plus réussis, qui trouvaient vraiment cet équilibre très très fort où tu ressors ta sueur sur le front, t'es essoufflé et en même temps tu dis waouh, c'est quelque chose. Là. Bon bah voilà. Et ça c'était effectivement plutôt. Effectivement, il n'y a qu'une littérature féminine qui est pour les femmes, j'ai pas vu de littérature féminine homo-érotique masculine pour les femmes, puisque c'est ça dont tu parlais, donc je comprends, j'ai cette non, mais enfin, ça m'intéresse de voir comment c'est fait. Justement, quand c'est fantastique, c'est intéressant aussi. Mais voilà, en fait, il y a plein de choses comme ça qui restent très très fortes. Et on parlait tout à l'heure des scènes de combat et des scènes de sexe. Ça me faisait penser à Michel Robert, que j'aime beaucoup. Et qui, lui, écrit en gros à peu près de la même manière ses scènes de combat et ses scènes de sexe. C'est-à-dire que toutes ces scènes de sexe sont des espèces de combats où il y a justement une idée de performance. C'est-à-dire à chaque fois, c'est deux guerriers qui sont en train de... C'est, tu vas voir, je vais te faire jouir. Non, c'est moi qui vais te faire jouir. Et c'est extraordinaire, en fait. C'est-à-dire qu'on lit ces romans, il y a beaucoup de plaisir à lire cette aventure et tout, mais c'est celle de sexe. Alors vous voyez, c'est l'exception par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ils sont extraordinaires, parce qu'on parle des espèces d'envolées. Et c'est, ça prend une autre dimension. Et lui, il arrive à dépasser complètement justement les problèmes qu'on évoquait tout à l'heure d'une manière tout à fait originale. Parce que c'est pas ridicule. C'est-à-dire que on sort aussi en disant waouh, c'était comme un, je sais pas, un match de catch, etc. Mais ça reste quand même impressionnant tout en gardant malgré tout un aspect érotique. Et je pourrais relire ces scènes pour voir comment ils procèdent. Alors je sais pas si c'est des tests. Je soupçonne de les tester, bon, je ne peux pas m'engager là-dedans non plus, on va lui demander. Mais lui, ça vaut le coup de les lire, parce que c'est, ça traite très bien aussi.
Est-ce que tu réalises que Imaginal des gens vont le voir et poser la question?
Ben, il a déjà lu des textes, on lui a posé des questions, je te rassure.
D'accord.
Moi, personnellement, c'est tout ce qui est la dark romance qui existe dans ce monde. Moi, j'ai vraiment du mal. C'est un truc qui... Voilà, on est toujours dans le côté surenchère des scènes de sexe.
Est-ce que tu peux définir la dark
romance? Ah, la dark romance, vous ne connaissez pas la dark romance. Ah, ça c'est génial. C'est en fait tout ce qui est bondage avec des termes ultra gore et ultra cru. Et si on pouvait rajouter en plus 2-3 scènes de viol à l'intérieur, c'est génial. Je crois qu'il y a la fin du mot pour. Donc ouais, on est vraiment dans ce terme-là. Il y a maintenant plein de maisons d'édition, des grandes maisons d'édition qui se lancent là-dedans. Et c'est une la littérature américaine qui arrive. Et donc elles sont engouffrées là-dedans. Et c'est vrai que quand on lit ce genre de choses, moi ça me met extrêmement mal à l'aise, surtout que c'est des femmes qui écrivent la majorité de ces choses-là. Là où je veux en venir, c'est que quand on parle, quand on lit ce genre de romance, ça de la romance, et qu'il y a des scènes de viol à l'intérieur, j'ai du mal. Et je me dis, mais pourquoi une femme a écrit ça? Alors, c'est la pire chose pour faire une femme. Pourquoi tu écris ça? Et il y a plein de grandes maisons d'édition qui achètent ça, qui traduisent, qui publient. Moi, j'ai du mal à écrire ça. On est vraiment dans le gore, j'ai lu il y a quelques semaines, un roman coupé comme ça, où il n'y a que des scènes là-dedans. Docteur Nutella, pour ne pas le citer, et ben ça m'a donné la joie. J'ai pas compris. J'ai pas vu ça, vraiment j'ai pas compris. Donc pour moi c'est vraiment un gros tabou, c'est ça, c'est lié au cul. Ces choses-là qu'on est trop ignore. À des femmes, et je me dis que dans l'homosexualité érotique, ça doit exister, j'en ai pas lu, et je vais
donc, moi, juste pour demander, les scènes de viol te venaient parce qu'elles étaient gratuites ou juste parce que c'était des scènes de viol?
Il y en avait une qui était gratuite, et l'autre qui était dans le move, une scène d'orgie, où justement la fille en avait ras-le-bol, et que les deux qui sont arrivés par derrière, c'est-à-dire pour continuer par la chose. Et elle disait non. Donc, ouais, là ça m'a forcément dérangé quelque part.
C'était
quoi
la question?
Ah.
est-ce qu'on a des tabous?
Ouais.
Quand on écrit, j'essaye pas. J'ai frôlé la scène de viol dans un bouquin, dans le tome 2 normalement. Ouais, dans le tome 2. Ça m'a gêné d'arriver suffisamment près pour que ça fasse. Mais justement, ce qui me questionne en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on serait à ce point choqué par une scène de viol mais pas par une scène où on massacre un certain de bovins en les émissaires? C'est pas pour faire la provocation, mais ça me fascine vraiment cette question, parce que je pense que le problème du viol, c'est qu'on touche à quelque chose, qu'on touche à un sanctuaire en fait. On touche à quelque chose qu'on a sacralisé, on touche à quelque chose qui n'est pas juste dégueulasse visuellement en fait. C'est beaucoup plus pervers. Et je pense que ça pourrait être un tabou. Je pense que ça serait un tabou pour moi d'écrire vraiment une scène de viol. Je pense que j'aurais beaucoup de mal. Pour cette raison. Parce qu'on touche à une perversion extrêmement profonde qui, voilà, on est pas encore habitué. Et je pense qu'il ne faudra pas qu'on soit différent un jour. Voilà, enfin, non mais...
voilà, j'ai des scènes de massacre, des scènes de décapitation, on en a vu, on en a vu, on en a entendu, on en a souhaité, on en a écrit. Voilà, c'est comme l'époque de Baudelaire où il écrivait des araignées qui disent parfois au fond de vos cerveaux. À l'époque, ça faisait fureur, aujourd'hui c'est bon, vous arrivez, plus peur de ça, enfin si, on s'en fout quoi. Et je pense qu'on n'a pas encore passé justement le cap au niveau du viol, on n'a pas encore atteint le moment où c'est banalisé et tant mieux. Et donc je pense que ça ferait partie des viols. Voilà.
Idem.
Ça c'est ça. C'était ton joker.
C'est vrai que... de combattre les capitations, tout ça, c'est facile d'écrire. Bon, pareil, j'ai frôlé aussi une scène de viol, mais jamais, et je pense pas que j'en écrirai ça. Du tout. Non, et puis c'est vrai que c'est un tabou important.
Ce que j'allais dire, parce que là, vu les propos que j'entendais, au moins, vous êtes des garçons, j'allais vous dire, bon, bah, je fais un dimension sexe de deux, vous faites tout ça avec des petits chats.
C'est un viol, hein.
Ben, en fait, un peu pareil, mais j'élargis, oui, voilà, la notion à tout ce qui ne peut pas donner son consentement, je vous donne pas son consentement. Humain, animal, extraterrestre, tout.
Les cactus, ça fait
mal. Les choux-fleurs. Voilà, ça c'est pas possible. Mais il y en a tellement gratuitement partout. Même pour servir le scénario, enfin finalement, pour faire pour combiner dans le scénario, pour qu'il suffit que le temps soit violé et paf, ça part tout de suite. Donc c'est la vidéo. Voilà.
C'est un peu parce qu'il faut chaque fois l'imager.
Je vais dire deux choses en fait. C'est marrant parce qu'on est tous, a priori, je pense, des auteurs de science-fiction fantastique par les deux, ou de fantaisie, bon, aussi parce qu'on parle de fantaisie. Mais de fantastique science-fiction, et ça c'est peut-être H, pour horreur. Et finalement, c'est intéressant de penser qu'il y a une époque quand même, je ne sais pas, je ne connais pas bien ce qui s'est passé en France vraiment. En France, c'était finalement l'écho de ce qui s'est passé aux États-Unis. Et une époque de libération sexuelle qu'on a tous connue, enfin, dont on connaît l'histoire, si vous voulez, qui a profondément marqué la science-fiction américaine et anglo-saxonne, et tout ce qui est la New Wave, en fait, où on a abordé le thème du sexe de façon crue, de façon complètement barrée, avec des mecs ou des femmes qui couchaient avec des extraterrestres, avec des trucs qui se passaient à plusieurs. Il y avait des histoires, notamment Damon Knight, qui a fait une anthologie qui s'appelle Dans le jeu, où il y avait un certain nombre de textes à la caractère sexuel, et qui ont pu choquer à l'époque, mais effectivement aussi qui ont marqué, et qui ont marqué le genre, je pense. Et je pense notamment à un texte par rapport à l'inceste, je ne sais pas si c'est Zelazny qui l'a écrit, ou c'est peut-être plus... Damon Knight, justement, qui a pu l'écrire. Et je dis beaucoup de Joseph Farmer, parce qu'il y a un certain nombre de têtes de cul en rapport à la science-fiction. Et il y a une question de curseur jusqu'à quel point, où est-ce que nous, en tant qu'auteurs, maintenant, au 21e siècle, on met le curseur et jusqu'à quel point on se censure, on s'auto-censure, ou jusqu'à quel point l'éditeur va nous censurer. J'ai eu le cas de censure, bon, c'était pas par rapport à du sexe, mais j'ai eu le cas de censure par exemple sur une anthologie où un éditeur m'a dit là tu vas trop loin dans l'horreur et il faut que tu ramènes le curseur vers quelque chose de plus soft parce que finalement on a un lectorat qui va être un lectorat jeune et il ne peut pas aller dans cette direction. On a un éditeur donc avec Julien Morgan qui est dans le public, on a un éditeur qui s'appelle Valros et qui nous permet tout. À peu près en termes de sexe, on a écrit notamment pour Radius, le projet sur lequel on a bossé tout début, on a écrit des trucs qui sont assez osés, qui sont assez barrés, que ce soit sexuel ou non sexuel, mais il y a une question de ce qu'on met nous dans le texte, et à quel point on s'autocensure et à quel point l'éditeur va nous censurer ou pas. On reste dans la fiction, je veux dire, c'est un problème très complexe, je pense. Savoir si on met des scènes de viol, si on met une scène de sexe non consenti, si on met une partouze et que ça vire un truc super trash, ou si on met une scène de sexe et puis ça devient du cannibalisme. Jusqu'à quel point Effectivement, c'est dégueulasse. Effectivement, c'est dégueulasse. Jusqu'à quel point, d'une part, ça va servir de scénario, ça va servir d'histoire. Tu peux avoir des textes qui, finalement, sont basés entièrement là-dessus, quoi. Et bon, après, tu prends un plaisir ou pas à lire. Mais effectivement, je parlais tout à l'heure de Clive Barker, c'est très dérangeant, certains de ces textes. Il y a un passage dans le Cabale où le personnage, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de Cabale, le personnage meurt ou se fait tuer, devient une espèce de mort vivant, il n'est pas vraiment zombie, mais il est mort et vivant à la fois, et il te décrit une scène de sexe où il fait l'amour avec sa copine, et en fait, il est à l'état de zombie. Et donc, il te décrit ça de façon clinique, et c'est dégueulasse. En même temps, ça sert l'histoire. Et en même temps aussi, je pense, dans l'écriture, une volonté, enfin pour les différents auteurs, une volonté d'essayer de tester des choses. Essayer de voir des pistes, essayer de voir les sentiments qui peuvent provoquer chez le lecteur. Et après, il y a effectivement la notion de gratuité, je ne sais pas si c'est gratuit, mais si tu prends une scène de viol dans un roman, et que ça sert à l'histoire, bon. Là, par exemple, j'ai fini de lire un roman de Gugut qui s'appelle Dancing Lolita. Et c'est assez dégueulasse parce que finalement il y a toute une dimension autour du viol et en particulier plutôt de la pédophilie. Et en même temps le roman est très bon. Et tu sors de cette lecture, t'as une impression poisseuse et t'as l'impression de te souiller finalement. Donc, est-ce que c'est un plaisir de se rendre compte? Et après, est-ce que c'est intéressant en tant qu'auteur aussi d'explorer ces pistes-là?
Et alors justement.
Ouais, non, c'était très vite fait par rapport à la question de la gratuité. Est-ce que la gratuité est forcément une mauvaise chose? Ça, je suis vraiment pas convaincu du tout. Je veux dire, voilà, la pornographie est peut-être forcément une mauvaise chose, même si elle est gratuite, bah, pas forcément. Pour en revenir à la question du sentiment passé qu'on peut être mauvais, j'ai toujours du mal avec l'idée que les films tristes rendaient tristes et les films joyeux rendaient joyeux en fait. Pour moi, un bon film, que ce soit triste ou joyeux, rend joyeux, fait du bien. Un film d'horreur bien fait, ça fait du bien. Alors ouais, j'ai peut-être pas été rassuré à rentrer chez moi, j'ai mis la lumière, ouais, ridicule. Mais ça va me faire un bien fou parce qu'on voit une certaine qualité esthétique, et c'est vraiment ça qui est intéressant. Et je pense que ça vaut pour tous les arts, pour tous les livres.
Et alors justement, par exemple, Fabien, David, Jacques, est-ce que vous, ça vous pose un problème d'écrire un site de sexe entre deux hommes, Thomas, d'écrire un site de sexe entre un homme et une femme? Est-ce que ce serait un peu problématique par rapport au fait de savoir finalement?
Alors pas du tout, parce que moi dans le tome 2 de Drake Carter, si j'ai monté, j'ai une scène entre un homme et une femme. Et pas du tout. C'est... Pour moi, ça a été naturel d'écrire ça. Voilà, j'ai imaginé, j'ai fait comme écrit, j'ai fantasmé là-dessus et j'ai pas eu vraiment de soucis à écrire entre un homme et une femme. Je pense que je pourrais même écrire entre deux femmes. Ça me dérange absolument pas du tout et j'aurais matière à écrire avec mon imaginaire.
Oui, on est censé pouvoir faire, ça peut être intéressant quand on n'a pas l'expérience. Par écriture. Mais pour être riche pour des choses qu'on ne connaît pas en prenant des gens qui débutent dans ce type d'activité, et ça peut être un moyen plus facile de se projeter en disant bah voilà, c'est la première fois qu'ils découvrent, qu'est-ce que tu ferais, il y a un peu de trucs, et personne ne peut te reprocher d'avoir fait n'importe quoi, un truc qui ne correspond pas à la réalité, puisque c'est peut-être toi, si j'ose dire. Voilà, moi je serais comme ça.
Un prix, je crois, qui est remis aux écrivains qui ont écrit les pires scènes de sexe. Je ne me rappelle plus le nom du prix exactement. Et bon, déjà, ça, c'est un frein. En France, ça ne se pratique pas. Tu pourrais effectivement te taper la honte et te prendre. Bon, maintenant, ça existe plus dans Bifrost, mais te prendre un rasis, quoi.
Bon, on va aller chercher dans le catalogue de l'éditeur, on va parler de
toi. Pour un texte mauvais, et. Il y a jusqu'à un certain point, je pense, une part d'expérience qu'on met dans le texte. Et c'est super casse-gueule d'écrire un texte homoérotique si on est soi-même pas homosexuel et qu'on a fait une expérience homosexuelle, même si nous parlons d'existence, effectivement. La question, c'est de savoir jusqu'à quel point c'est en danger. C'est quelque chose que moi, en tant qu'auteur, j'apprécie beaucoup l'idée de modèle en temps réel. C'est-à-dire que tu vas écrire des textes sur l'immortalité, la famille, la mémoire, si c'est des textes que je travaille, que je maîtrise, sur lesquels je reviens, et bon, tu t'amuses parce que finalement, tu as l'habitude d'être là-dedans, et puis finalement, et puis un jour, tu te dis, je vais écrire un texte de sexe. Sur le sexe, sur un texte homoérotique, et là, tu te dis, merde, comment je fais? Est-ce que je vais me mettre en danger jusqu'à ce point-là, jusqu'à devenir ridicule et finalement être candidat au Razzie? Ou comment je me démerde, sinon je me renseigne, ou sinon je fais lire à quelqu'un qui connaît, qui pratique, qui sait comment ça fonctionne, ou sinon, bah, dans le cas de Radius, je me suis pas fait chier, j'ai commencé à écrire un texte homoérotique avec un autre auteur qui est dans le public. Et je lui ai fait le plan texte que je voyais de ce qui allait se dérouler plus tard. Donc c'était les préliminaires. En gros, les deux personnages sont dans un jacuzzi, machin, discutent les deux, puis se séduisent, et finalement ça a fini sur un scène de homoérotique. Et je lui dis, bah, tu te démerdes, t'écris la fin. Parce qu'il maîtrisait peut-être plus le sujet, ou parce qu'il était peut-être plus apte, connaissait plus. Et moi, je suis arrivé à un point où je me suis dit, si je l'écris, j'aurais l'air con parce que. Je ne sais pas forcément de quoi je parle, et j'avais peur. Enfin, ce qui compte, c'est au final de ce que tu rends au lecteur. Il faut être honnête, il faut être sincère, et il faut être pro. Si tu rends un texte qui est mauvais au lecteur, le lecteur il va être déçu finalement.
David.
C'est vachement rassurant parce que je sais qu'avec moins 50 sur les chefs du bonheur, on ne partirait pas en vrille, mais en fait, c'est parti complètement en vrille. Mais du coup, c'est cool. C'était quoi la question de là?
Est-ce que par exemple,
une écriture
de
scène
de
sexe
pour vous?
Ok. J'ai failli encore une fois parce que dans tome 1, il y a une scène de sexe entre deux personnages et il y en a un, on ne sait pas vraiment si c'est un homme ou une femme. Donc j'ai mis une sorte de voile métaphorique dessus.
Quoi?
Oui, gros spoil, je sais, je m'en fous, hein, je spoil.
Salut!
Ouais, non, mais c'est chaud parce que j'ai pas vraiment écrit la scène de sexe en tant que telle. J'ai décrit les sensations, j'ai décrit le décor, j'ai utilisé le métaphore, j'ai mis un gros voile de pudeur dessus. Mais non seulement bah, je l'ai pas fait, parce que j'ai pas décrit parce que je connais complètement l'intrigue, quoi, de le dire. Et en même temps, je ne l'ai pas dit aussi, peut-être un peu parce que j'avais pas envie de dire n'importe quoi, comme disait là. J'avais pas envie de dire n'importe quoi. En revanche, voilà, je pense que les effets bien sûr, mais ça peut tout faire. En y réfléchissant, on devrait prendre
le
temps. En y réfléchissant, on va dire. Je pense que, voilà, en faisant un peu de réflexion, de recherche pendant ce temps, je pense que c'est le genre de choses que je pourrais faire. Parce que ça me paraît pas foncièrement plus compliqué qu'une scène avec une femme qui se masturbe, par exemple, que j'ai écrit. Donc voilà, en soi, l'idée ne me choque pas plus que ça.
Bon, alors mesdames, est-ce que vous, ça vous choquerait, ça vous gênerait d'écrire ce genre de scène?
Bah, du coup, j'ai déjà fait.
Ça règle le problème.
J'ai navigué, donc je lui envoie et je lui demande.
Non, mais une scène entre deux femmes ou...
Ça m'est... Oui, je crois que c'est une femme aussi. Bon, parce que là, j'ai pas de... Non, ça me gêne pas particulièrement, je me sens pas gêné par ça. Et après, bon, au niveau de la ressemblance, c'est pas vraiment vers moi, mais c'est entre deux hommes. Je peux pas dire, mais par contre, c'est vrai que je me suis renseignée, je suis passée sous les fourches codines de personnes qui se connaissent mieux que moi pour savoir si ma scène était réaliste, si ça passait. Bon, normalement, ça passait.
Non, parce que moi je n'arrive pas juste à me mettre dans la peau d'un personnage qui pourrait ressentir les choses différemment de ce que je le ressens. J'arrive à me faire pour des actes anodins de la vie de tous les jours, décapiter des gens, tout ça. Mais.
C'est vrai,
c'est
vrai.
Décapiter des gens?
Non, je n'y arrive pas. Est-ce que ça va être du tabou?
Non, c'est plus une question de tabou, c'est une question de vraisemblance, mais vraiment. Je me sentirais pas bien avec moi-même d'écrire quelque chose qui pourrait ne pas être juste. C'est mon côté control freak.
Je regarde juste Donc, bah, je ne sais pas si l'un d'entre vous a un dernier mot à dire. Mais en tout cas, merci au public d'être venu. Et merci à tous les auteurs d'avoir répondu aux questions. Ce n'est pas forcément un sujet facile au départ.
Ouais, les gens ont peut-être des questions, non?
Ouais,
c'est pas cool. Alors, je ne veux pas
t'apprendre
ton métier, mais...
Ouais, mais en fait, on a déjà 10 minutes de retard.
Ah merde!
Donc, c'est un peu ça mon problème. Je crois pas. Bon, bah, je sais pas si vous avez des questions dans le public.
Alors j'ai une double question, enfin deux sujets. Le thème de la sexualité des scènes de texte, de sexe, pardon, pour la littérature jeunesse ou young adult, est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle il y a une censure de la part des auteurs, de la part des auteurs ou une censure de la part des éditeurs pour de peur de perdre leur public, vous pensez que ça s'adresse pas à eux alors qu'aujourd'hui les jeunes sont beaucoup plus précoces en termes de familiarisation avec le sexe, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, ça c'est un débat. En tout cas, c'est le cas. Et je pense qu'à l'heure actuelle, effectivement, les scènes de sexe sont assez exclues de la littérature pour jeunesse et en jeune adulte. Et est-ce que vous pensez que c'est un frein, est-ce que c'est un tort? Et deuxième question, est-ce que le moyen de pouvoir sublimer ces scènes de texte et dépasser ses propres tabous, vous en tant qu'auteur, ou d'apporter de nouvelles choses au lecteur, ce ne serait pas de puiser dans ce vivier d'imaginaire, vraiment, parce qu'on parle que de sexe, entre guillemets, mais que vous avez parlé que de sexe entre êtres humains, ou en tout cas entre homos. Pardon ? Donc, vous parlez de vous mettre à la place, de l'expérience vécue, etc., du coup, c'est plus compliqué. Et du coup, pourquoi pas écrire des scènes de sexe et imaginer la sexualité des dragons, des trolls, de créatures lovecraftiennes, horrifiques et autres, et pouvoir justement redonner. Voilà, de tentacules. Mais qui, voilà, on parlait de femmes qui couchaient avec des extraterrestres, et voilà, une vraie sexualité des extraterrestres, de dragons, de. Et voilà, resublimer, inventer cette sensualité, resublimer le sexe avec un nouveau vocabulaire, qui serait pas clinique, puisque ça. Enfin, pourrait être clinique, mais en tout cas pas aux êtres. Voilà. Et merci pour cette.
Alors, pour la deuxième question, j'aurais sans doute du mal à vous répondre, mais pour la première, je pense que oui, même si tout le monde s'en défend, il y a une autocensure de toute façon, ne serait-ce que parce que quand on écrit de la littérature jeunesse, on écrit parfois pour des très jeunes gens. Hein, c'est-à-dire que si c'est 18 ans ou 18 ans, ça va, mais on écrit pour des gamins de 10, 12 ans, des bons lecteurs qui peuvent lire beaucoup plus tôt, et il y a vraiment la responsabilité de ne pas les traumatiser. Tout simplement. La deuxième idée, quand même, c'est que le jeune lecteur ne réagit pas exactement aux mêmes choses que nous. Donc ça, il faut essayer d'en tenir compte, notamment à travers ses propres souvenirs de lecture. Par exemple, pour avoir relu des textes que j'avais lus tout petit, je me souvenais d'un érotisme délirant, et quand je le relis maintenant, il y a quasiment rien. Donc il y a tout un travail imaginaire, on n'a pas besoin d'en faire des caisses. Hein, donc c'est pas utile. C'est pas utile, sauf si on veut effectivement les traumatiser. Ce qui est rarement le cas, parce que la loi nous l'interdit, en fait, de toute façon. Non mais c'est pas
dommage.
La loi sur les publications pour la jeunesse, on peut pas démoraliser la jeunesse, non pas au sens où ce serait immoral, mais les mettre dans un état justement de traumatisme.
Mais ça peut être un moyen aussi de leur apporter une sexualité plus propre que celle à laquelle ils sont confrontés
directement. Alors oui, justement, ça c'était déjà éviter, enfin, il faut éviter aussi en jeunesse de vouloir faire quelque chose d'éthique, parce que, ou même de moralisant, parce que là c'est l'écueil assuré. Alors par contre, du coup, il va y avoir une forme de censure, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas évoquer les choses de la même manière. Et c'est pour ça qu'on a parlé de vraisemblance, tout à l'heure, on a parlé de réalisme. Moi, je m'en tape du réalisme, en fait. C'est pour ça que ça ne me gêne pas d'écrire sur n'importe quoi, et même je m'en fous un petit peu que ça ressemble à rien pour quelqu'un qui connaît et qui a l'expérience. J'essaye de faire, hein, c'est-à-dire que, justement, mon travail, c'est d'atteindre au plus près de l'expérience humaine que quelqu'un d'autre peut avoir, mais je pars du principe qu'en tant qu'être humain, je suis capable de tout comprendre. Hein, c'est la base. L'idée derrière, c'est qu'on va l'aborder de façon détournée. Souvent, c'est-à-dire au lieu justement de balancer des grosses descriptions, ben on va trouver des moyens de suggérer les choses et qui vont avoir un effet aussi fort sur le lecteur et qui va permettre de justement d'accéder à des sensations, à des idées, à des désirs qui ne sont pas encore formulés, qui sont inconscients, mais qui peuvent exister. Et c'est là que le travail peut être fait. Donc oui, il y a une censure, heureusement. Heureusement parce que moi je me souviens il y a quelques années, il y a eu l'affaire de Les Orphelins de Naja, qui était un roman de Nathalie Legendre qui avait posé des gros problèmes à Mongo, parce qu'il y avait une scène de viol dedans qui était, c'était une affaire de jeunesse, hein, donc sorti d'ailleurs après en mettant beaucoup de cartes à partir de 16 ans. Et en fait, le gros problème, selon moi, moi je l'avais vu le bouquin, c'était qu'il y avait une scène de viol, effectivement, qui était bien écrite dans le sens où, effectivement, on ne partait pas dans, dans quelque chose d'ignoble, destiné à choquer, mais par contre, dans le traitement, malgré tout, moi, j'estimais que ça pouvait être traumatisant pour le lecteur. Et que, en fait, le bouquin ne devait pas sortir comme ça. Moi, j'étais de cet avis. Parce que, en général, les gens disent « oui, liberté et tout », je n'étais pas du tout dans la direction. Moi, j'avais été consulté en tant que personne extérieure, et j'avais, en tant qu'enseignant, en tant qu'auteur, et moi, effectivement, je ne donne pas ça à des enfants. Non pas que le bouquin soit mauvais, il y avait toute la question religieuse qui avait été, ce n'était pas du tout le problème, en fait, c'était que l'expérience relatée dans le roman, il n'y avait pas de possibilité d'élaboration. C'est-à-dire qu'on donnait une expérience brute, qui était, effectivement, si on lit juste le texte, il n'y a rien de traumatisant en soi, mais c'est très difficile d'ailleurs à analyser, mais le ressenti qu'on avait, c'était vraiment une expérience brute et qui n'était pas du tout mise en scène. C'est-à-dire qu'on restait vraiment dans le traumatisme, c'est-à-dire quelque chose d'incompréhensible, et on n'avait pas d'histoire à raconter au cours. D'autant plus après, il y avait des problèmes au niveau de la construction du texte, puisque le viol intervenait à un moment où ce n'était pas nécessaire. C'est-à-dire que l'héroïne se trouvait à devoir rentrer dans les réseaux de prostitution infantile, et du coup, son parrain, en gros, si je me souviens bien, la violait pour éviter de s'occuper d'une vierge de tout. Bon, c'est complètement con comme solution, hein, si on y réfléchit, parce que, on va éviter que je l'ai tué moi-même pour pas que tu meurs. Et donc là, il y avait tout un tas de problèmes comme ça. Mais le problème principal, c'était vraiment, effectivement, l'idée de choquer, et je pense qu'en tant qu'auteur jeunesse, on a une vraie responsabilité là-dessus. Alors, il y a l'éditeur qui passe derrière aussi, il y a un peu de la vie, on a un certain nombre de tout, mais soi-même, on voit, et moi, c'est pour ça aussi que j'écris des littératures de l'imaginaire, c'est parce qu'on peut parler de n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Et l'élaboration est fondamentale. Et c'est pour ça qu'on parlait un peu de ce qui est politique tout à l'heure, de partir dans autre chose, qui me semble très importante. Et d'ailleurs, vous voyez, on a beaucoup axé sur la sexualité en disant qu'il y a des tabous autour, il faut faire attention parce qu'on se sent plus facilement, il y a des rasies, etc. Je pense que le problème est là, en fait. Il faudrait traiter les scènes de sexe exactement comme le reste. Et le moyen que j'essaye, moi, d'avoir quand je vais écrire des scènes de sexe, justement, je ne choisis pas car je vais faire des scènes de sexe, je pense que la plupart du temps, on ne s'occupe pas de ça, c'est de le rapporter dans une expérience de rapport au monde. Et notamment à travers les sensations. Et donc, on décrit les sensations et on décrit un rapport au monde du personnage. Et du coup, ça nous apporte des informations sur le personnage, sur les relations d'un personnage à un autre. Et du coup, ça fait avancer de toute façon l'histoire. Et en même temps, ça fait progresser le lecteur dans quelque chose. Alors, ça, c'était pour la jeunesse. La deuxième question, c'était éventuellement d'imaginer des sexualités extraterrestres ou. Pourquoi pas, effectivement, c'est un domaine qui n'est pas assez creusé. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment un travail, notamment au niveau de tout ce qui est xénoencyclopédie, où il y aurait des choses à inventer. Le problème, en fait, c'est que ça me fait penser en fait à. Je ne sais pas si vous avez vu Bordam, le dernier de Deldadus, qui est très intéressant parce qu'il y a une espèce de trafic de drogue, mais qui est à base de trafic de souvenirs. Et en fait, il renouvelle vraiment avec ce thème, tout ce qui est la thématique de la drogue, parce que c'est un très bien dans le texte, et vraiment les scènes sont très très fortes, très bien faites. Et je pense que c'est ce genre de décalage qu'il faudrait obtenir, comme vous proposiez, avec les scènes de sexe, en proposant vraiment autre chose de différent. Mais après, en général, on est souvent très très coincé. Et on parlait tout à l'heure des scènes de viol qui reviennent tout le temps. et qu'on peut être choqué souvent sur des femmes qui les écrivent. Moi, je pense que beaucoup de gens vivent et veulent vivre ces scènes, justement, après une forme de libération des mœurs, où on a l'impression que finalement, ce qui va être révolutionnaire, c'est de revenir à des relations tout à fait arbitraires, patriarcales, de domination, de violence, alors que des relations apaisées et entre égaux, ben, c'est pas sexy parce que c'est autorisé, et c'est même normal. Alors que toujours flirter avec la normalité en matière de sexe, c'est censé être plus excitant. Et du coup, on en revient à des trucs, voilà, et, du coup, ce que vous proposez nous donnerait une porte de sortie pour éviter de tomber dans, même plus qu'on s'appelle la série qui a super bien marché, là, non, ils couchent deux fois, ils ont un enfant, ils arrêtent. Non, c'est comment ça s'appelle ? Oui, 50 nuances de père, qui est effectivement extrêmement réactionnaire d'un point de vue politique, on a dit, avec les relations hommes-femmes, mais je pense que si ça fonctionne, c'est d'ailleurs la même chose pour toi, là, pour les relations hommes-femmes, ça fonctionne aussi parce que c'est un côté différent, on en revient à quelque chose qu'on connaît en fait, et on n'a pas discuté des députés en disant alors, est-ce que c'est toi qui décide ? Ah non, c'est moi qui décide, t'as pas le choix, c'est comme ça. Et donc, effectivement, une porte de sortie vers l'avenir, ça pourrait être d'imaginer d'autres formes et tout, mais c'est un sacré boulot.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Par contre, les réponses devront être brèves.
Ah bon ?
Oui, mais c'est votre question.
Alors, je vais vous demander. Alors, est-ce qu'on peut.
Comment ?
Vous avez un peu bridé à la fin.
Moi j'ai bridé ?
Non, vous avez bridé ce jour que vous avez écrit parce que ça allait trop long.
Moi je me suis
bridé.
Oui. D'accord, oui, parce qu'en fait c'était pas sur un texte en rapport avec le sexe, c'était sur un texte en rapport avec l'horreur.
D'accord.
C'est une scène de torture. Pour dire les choses autrement.
Moi c'est ma question simplement et première question. D'accord. Est-ce qu'on peut allier le fait de l'État, comme vous avez tous parlé, de banalisation, avec le sommet des tableaux, tout en supprimant pas, en supprimant pas sur la qualité artistique. Bien entendu, entre parenthèses, je tiens à préciser que sans être dans la effectivement la banalisation du viol, les préjugés sexistes, machistes. Alors, j'ai pas entendu, je suis arrivé en retard les premières minutes, je sais pas si vous en avez parlé.
J'ai pas bien saisi la question.
La question c'est
si on peut lier les tabous et le style, c'est ça ?
Voilà, c'est-à-dire est-ce qu'on peut être dans quelque chose qui est non-genré, qui reste respectueux des femmes, dans la banalisation du viol, sans perdre de sa qualité artistique.
En fait, je pense que c'est vraiment une question de ce qu'on met dans le texte finalement, quoi, et de comment on en avait parlé par rapport au lexique que tu veux utiliser dans le texte. C'est vrai si tu utilises un lexique qui est médical, si tu utilises un lexique thérapeutique, ou si tu utilises un lexique qui est poétique, voire métaphorique, c'est vraiment ce que tu vas mettre dans le texte. Je pense pas que la dimension tabou ou non tabou rentre en jeu dans ce que tu vas mettre. Mais après, il y a aussi quelque chose qui est super intéressant. Moi, je trouve qu'on n'en a pas du tout parlé, alors qu'en fait, c'est le nerf, finalement, de l'écriture. Le nœud, c'est le nœud, et souvent, on risque de tomber dans un trou cinématique. Quand on l'aborde ou pas, justement, c'est l'ellipse. L'ellipse qui est vraiment au centre, je pense, de l'écriture ou non de texte de scène, de sexe. On a des textes, c'est la littérature de genre, et bon, la littérature blanche est remplie de romans où, hop, il n'y a pas de scène de sexe. Le matin, ils se lèvent, on a leur café, et voilà. Et en fait, c'est ça qui est intéressant de voir aussi, c'est jusqu'à quel point on manie l'hélice. Et jusqu'à quel point on manie l'hélice à l'intérieur même de l'écriture de scène de sexe. Jusqu'à quel point on va aller dans le tabou ou pas, une scène de sodomie, est-ce qu'on va la décrire de façon crue ou avec des termes poétiques ou avec des termes médicaux, ou au contraire, est-ce qu'on va suggérer, mettre une phrase très courte et passer autre chose.
sais pas si j'ai bien répondu à la question ou... J'ai ma question, ça se marie, moi je pense qu'il y a soi, donc on doit faire des choix artistiques, et c'est pour ça que ça se marie, vous avez répondu à la question.
Ok. Alors juste en deux minutes, et le dans ce cas-là, chacun, je vais passer. Non. C'est mon écran. Bien,
précieux. Je pense que c'est comme l'humour en fait. On peut dire absolument tout, une blague sur n'importe quoi, c'est l'intention qui compte. L'intention et le contexte. Si le contexte passe les barrières de la courtoisie, de la bienséance et de la bienveillance, j'irai pas raconter une blague sur la Shoah à des grands-parents d'un ami juif. Par contre, à mon ami juif, je pourrais. S'il y a de l'humour et que je le fais bien et que mon intention est pas du tout malveillante. C'est une question de contexte, de bienveillance. Et c'était quoi le premier truc ? Ouais, d'intention, voilà. Je pense que c'est pareil avec les scènes trash, les scènes dialogue, etc. Je pense qu'on peut tout dire, tout écrire, mais c'est la manière.
Bon, sur ce, on va arrêter.
C'est mon avis, j'ai le droit de le dire.
Non, mais t'as le droit d'aller. Par contre, parce qu'on avait pris 25 minutes de retard.
25 minutes de retard de bonne heure.
C'est ça, grâce à la vie. Merci. Bon, bah, merci à tous et bonne soirée.